Lydia et Claude Bourguignon sont les fondateurs de l'unique laboratoire en France d'analyse des sols, le LAMS. Ce laboratoire diagnostique l'état des sols pour permettre aux agriculteurs d'en restaurer la biodiversité. Devenu célèbre depuis le film documentaire de Colin Serrault « Solution locale pour un désordre global », Lydia et Claude Bourguignon sont essentiellement appelés par les agriculteurs à l'étranger. Mais ils poursuivent leur démarche d'information au sein de l'Hexagone. Ils étaient invités courant janvier par l'association TEST, qui regroupe des citoyens consommateurs qui veulent aider la planète en ne mangeant et ne buvant que le meilleur de ce que la nature a produit. Lydia Bourguignon.
On travaillait à l'INRA il y a 20 ans. Moi, j'étais sur la qualité des aliments d'homme et Claude était en microbiologie des sols. Donc, à la limite, on dirait à Claude le début, puis moi à la fin de la chaîne. Dans les années 80, la notion d'écologie, d'environnement et de respect du sol était absolument pas dans la mouvance. Les choses ont bien changé. Heureusement, ça commence à changer. Je pense qu'à force, on a peut-être mis aussi quelques petites pierres pour faire changer cela. Et comme ce n'était pas du tout dans l'idée et que la notion de respect du sol et des agriculteurs, on était assez effarés de la façon dont on traitait les agriculteurs en général. Les vignerons sont aussi des agriculteurs. Il faut changer, il faut essayer de leur faire comprendre que, en fait, le sol est à la base de tout. Et ça, c'est une chose que l'on dit toujours. On l'oublie beaucoup trop parce qu'on parle beaucoup de la pollution de l'eau. Tout le monde dit les eaux sont polluées, l'air est pollué. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que cette pollution de l'air et de l'eau, ben, en fait, est liée à la destruction des sols. Et cette destruction des sols, eh bien, en fait, va générer des dégâts environnementaux, mais au niveau de la qualité des aliments et de la qualité de même du vin, de la notion de complexité du vin, va entraîner bien des déviations. Alors, c'est vrai qu'on travaille pour les agriculteurs et on travaille pour les vignerons. Pourquoi les vignerons, en fait, sont plus sensibles à la notion de terroir? Nous avons plus de clients vignerons que des clients agriculteurs. Parce qu'en fait, et chose assez étonnante, eh bien, les produits de terroir sont surtout, c'est là où on révélera plus le terroir, c'est dans les produits fermentés. On parle de fromage de terroir, le tabac, le thé, le café, le chocolat. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, la fermentation va exacerber la notion de goût de terroir. Par exemple, si on est en Bourgogne, une des hypothèses du choix des bourguignons, pourquoi ils ont fait du rouge à certains endroits et pourquoi ils ont fait du blanc à certains endroits? Si vous êtes sur deux parcelles, il y a Vaune-Romanée, qui est la région, qui est le village où on a le plus de grands crus. Si vous êtes, par exemple, et tous les connaisseurs le sauront, même à l'aveugle, pour les vins de terroir, là, vous êtes sur deux parcelles très voisines. Eh bien, en fait, si vous goûtez le pinot noir, vous ne pourrez pas faire la différence. C'est du pinot noir, vous allez retrouver du raisin. Mais à moins faire la différence du pinot noir qui pousse, par exemple, sur la Tâche et qui va pousser sur les Malconsorts ou sur la Romanée-Conti ou même sur Romanée-Saint-Vivant, vous ne ferez pas la différence. Or, il y a des vignerons, les mêmes vignerons qui vinifient ces raisins et ils vont vous sortir des vins différents. Il y a une explication, c'est que la fermentation va exacerber, va faire ressortir les goûts de terroir. Alors, qu'est-ce que c'est que le terroir? Parce que c'est un mot qui est énormément galvaudé. Et quand nous, on travaille, eh bien, la notion de terroir, si vos racines de la vigne ne vont pas dans ce terroir, bah, quelque part, pour nous, c'est une usurpation de dire que c'est un vin de terroir. On ne peut avoir un vin de terroir que si les racines sont au contact de la roche, soit les roches, soit même les argiles. À Bordeaux, c'est pas de la roche au sens caillou. Le terroir de Pétrus, c'est les argiles. Alors quand les gens disent qu'on fait des trous et qu'on a des racines de vigne qui sont à 40 ou 50 cm, qu'on vous dit que c'est des vins de terroir, pour nous ça nous fait un petit peu sourire parce qu'en fait, en surface, en règle générale, les sols sont assez proches. La notion de terroir, le démarrage, vraiment les premières personnes qui en ont parlé, où ça a été extrêmement développé, on va dire peut-être que je suis chauvine, mais en fait c'est en Bourgogne. Et les premiers qui ont défini les terroirs, eh bien, c'est les bénédictins. Au niveau de la géologie, on est dans le Jurassique, donc on a une géologie qui est extrêmement homogène entre le bâtonien et le bajocien. Et pourtant, très vite, les moines, puisque c'était des moines, ont trouvé qu'il y avait une différence. Or, pour nous, la différence, en fait, elle est venue du sol. Maintenant, on voit des vignes qui sont en train d'évoluer parce qu'avec le réchauffement climatique,
On voit l'Angleterre qui, au niveau géologie, au niveau certaines choses, n'était plus une correspondance avec la Champagne, mais son exposition n'était pas bonne. C'est pas de vin en Angleterre, mais en ce moment, en Angleterre, on voit des terroirs et des gens qui se mettent à faire du champagne, qui peuvent rivaliser, pour certains qui disent qu'ils rivalisent avec champagne. Pourquoi ? Parce que le changement climatique réchauffe énormément, et à ce moment-là, la notion d'exposition va changer, puisque de toute façon, même si on est au nord ou au nord-est, il fait assez chaud, alors qu'avant, on ne pouvait pas réchauffer ces terrains. Donc vous voyez, ça c'est l'explication du terroir. Après, je vais laisser la parole à Claude qui va vous expliquer pourquoi il faut que les racines aillent dedans et pourquoi c'est ça qui va être exprimé le terroir.
Bon, le sol, c'est le milieu plus vivant de la planète puisqu'il héberge 80% de la biomasse du monde. Alors, il se trouve que les plantes ne savent pas se nourrir. Elles sont strictement incapables de se nourrir parce qu'elles n'ont pas les capacités biochimiques. Elles savent se nourrir dans l'air où elles font leur photosynthèse. 94% de la matière sèche d'une plante vient de l'atmosphère. C'est avec cette atmosphère, la vigne va faire du sucre, par exemple. C'est ce sucre que nous allons faire fermenter et nous allons faire de l'alcool. Je vous expliquer que la racine plongeait, elle peut plonger très profond. Dans le cas de la vigne, qui est une plante pérenne, les records d'enracinement, c'est 75 mètres de profondeur. Donc une vigne peut aller bas. Un blé, ça peut descendre à 10 mètres, lui, uniquement pendant l'une année culturale. Les plantes font d'énormes surfaces de contact avec le sol. Un blé fait 200 km de racines. Nous mettons 200 pieds de blé au mètre carré, ça nous fait 4 milliards de kilomètres de racines à l'hectare. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce contact racine-plante? Et bien, comme la plante possède a de la photosynthèse et qu'elle a du sucre, elle va envoyer par sa sève descendante ce sucre qu'elle a en excédent, elle peut en envoyer jusqu'à la moitié de sa production, et elle va l'excider au niveau de ses racines, et elle va donner à manger aux microbes du sol. Et les microbes du sol, en échange, vont lui donner à manger, parce que les microbes du sol sont capables, ce que les plantes ne savent pas faire, elles sont capables de prendre les formes de la chimie, c'est toute cette énergie chimique qui date du Big Bang qui est dans l'écorce terrestre, ils vont transformer en éléments assimilables. Alors comment ils font pour rendre un élément assimilable? Ils vont fixer de l'oxygène dessus. Et bien l'azote, lui, quand on fixe de l'azote dessus, trois atomes d'azote, ça fait NO3, c'est le nitrate. Et ce nitrate, il devient soluble, et à ce moment-là, il peut rentrer dans la plante. Le microbe est capable de prendre le phosphate, transformer en phosphate, etc. Donc il y a un véritable dialogue entre la plante et les microbes, à condition, bien entendu, que le sol soit vivant. Alors comment ça se passe? Il y a un équilibre qui se fait, c'est que les plantes, quand elles meurent, vont servir d'alimentation à une faune, et elle va manger, va décomposer les pailles, va décomposer les feuilles, et en faisant ça, ils font des galeries, ils aèrent, et en aérant, ils vont permettre à l'oxygène de descendre. Alors qu'est-ce que nous avons fait, nous, depuis 50 ans? On n'a rien compris à tout ça, évidemment, on a des énormes machines issues de la guerre, les tracteurs ne sont rien d'autre que des tanks transformés, adaptés à l'agriculture, le gaz moutarde a servi à faire les pesticides, nous avons déclaré la guerre au sol, et nous avons comploté les sols, tué la faune à coups de pesticides, et nous avons bouché les sols. Donc qu'est-ce qui se passe quand on observe maintenant des racines de vigne? Au lieu d'être en profondeur, comme vous l'avez dit, elle remonte, elle cherche désespérément de l'oxygène. Alors l'argument que nous répondent toujours les œnologues, dit oui, vous êtes bien gentil avec vos histoires, mais ça ne peut pas être le sol qui donne le goût au vin, puisque tous les composés aromatiques que nous goûtons dans les vins sont des composés carbonés. Or le carbone, il vient de la photosynthèse. Le problème, c'est que les œnologues ne savent pas une chose, c'est que tous les composés synthétisés dans un organisme vivant sont synthétisés par des molécules qu'on appelle les enzymes. Les enzymes sont des protéines à cofacteurs métalliques qui font accomplir toutes les synthèses à l'intérieur des êtres vivants. Du vin, mais aussi de tout ce que vous mangez. Pourquoi les tomates hors sol n'ont pas de goût? C'est que, comme leur nom l'indique, elles sont hors sol, il n'y a donc pas tous ces microbes du sol, donc elles n'ont strictement aucun goût. Elles ressemblent à des tomates, elles sont rouges, mais elles n'ont pas de goût.
Les anciens n'avaient pas aussi, les possibilités chimiques que nous avons, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, nous, on dit, il y a eu un énorme progrès au niveau des vins, ça fait 20 ans qu'on travaille quand même pour les agriculteurs et pour les vignerons. Et on se souvient, avec Claude, il y avait des fois où on allait déguster, où on allait travailler chez les vignerons, où en fait, c'était assez difficile de boire le vin. Il y avait pas mal de choses à faire. Donc on a énormément travaillé là-dessus. Donc à l'heure actuelle, on peut dire qu'on ne fait plus de mauvais vin. Mais ça a été quelque part une déviation, parce qu'en fait, comme au niveau du sol, les racines, on travaille avec des œnologues qui sont tout à fait d'accord là-dedans, là-dessus, c'est que comme les racines sont superficielles, c'est que les anciens, en fait, détruisaient les racines superficielles pour obliger la vigne à plonger. Si vous aviez des racines superficielles au détriment des racines profondes, c'est elles qui subissaient la sécheresse, qui ne pouvaient pas alimenter en eau les raisins, il y avait stress hydrique. Si vous avez stress hydrique, tous les vignerons vous diront, c'est dramatique pour la maturité. Et puis en été, il y avait une autre chose, un gros orage juste avant la vendange. Immédiatement, C'était, je dirais, comme un aspirateur. Ça aspirait tellement l'eau, parce que ses racines ne demandaient que ça, se gorger d'eau, d'où d'énormes problèmes au niveau de la pourriture, des problèmes de maturité. Donc les anciens, ça ne pardonnait pas. Il fallait vraiment qu'ils se mettent tous les atouts de leur côté. À l'heure actuelle, du fait de ce désherbage, le désherbage où vous enlevez l'herbe, il y a tout, il n'y a plus de faune, il n'y a plus d'aération, donc l'eau ne va pas rentrer, les racines vont remonter. Donc en fait, pour compenser ça, on a des produits anti-pourriture, on a énormément de choses, et les raisins manquent de certaines choses. Et on a la possibilité, grâce à notre industrie chimique, de remplacer certaines choses. Les anciens n'avaient pas ça, c'était impardonnable. S'ils se plantaient, c'était foutu.
L'homme, et c'est ça qui est remarquable, en plusieurs milliers d'années de culture, a adapté, a créé ce qu'on appelle des races chez les animaux et des variétés chez les plantes, adaptées au terroir. Il a pris une plante, ça s'appelle Vitis vinifera, par exemple, pour faire du vin, et il l'a cultivée pendant 1000 ans en Bourgogne, ça s'appelle Pinot Noir. Il l'a cultivée pendant 1000 ans à Bordeaux, ça s'appelle Cabernet Franc. Il l'a cultivée pendant 1000 ans à la vallée du Rhône, ça s'appelle la Syrah. C'est-à-dire qu'en plus, ce qui est étonnant, c'est que l'homme a adapté des plantes, a créé des variétés qui sont adaptées localement. Donc le problème, c'est qu'on a une perte de biodiversité absolument gigantesque, en légumes, en fruits. On avait en 1904, avec l'IA, on a retrouvé chez un brocanteur le catalogue de pomologie de 1904, 3600 variétés de fruits. Tout a été saccagé pour faire de la Golden américaine, de la Granny Smith. Enfin, donc on a une destruction de la biodiversité et qui fait que, par exemple, on vous vend du fromage marois, la race maroilaise, elle est éteinte. On vous vend du jambon de Paris, la race porte de Paris, elle est éteinte depuis 1930. C'est-à-dire qu'en plus, on ment aux consommateurs. On vous vend du camembert. Le camembert, normalement, c'est fait par une race qui s'appelle la race normande. Maintenant, il est fait avec de la Holstein danoise qui broute du regras anglais. Il n'y a pas besoin de la Normandie pour faire ça. Moi, je vous en fais en Nouvelle-Zélande, du camembert comme ça. Donc, cette perte de diversité, cette perte de terroir, elle est dramatique parce qu'il y a un véritable mensonge auprès du consommateur. C'est qu'on ment aux consommateurs. Et ça, c'est une des caractéristiques de l'agro-industrie. L'industrie a menti pendant des années aux consommateurs. Maintenant, il y a des associations de consommateurs qui empêchent un gars de vendre une chemise en nylon en écrivant soie naturelle. Ils n'ont plus le droit de faire ça. Mais dans l'agriculture, le mensonge, il est absolument à tous les étages, quoi. Et curieusement, je ne sais pas pourquoi, les consommateurs ne protestent pas contre le mensonge de l'agro-industrie. Je pense qu'il y a un inconscient. L'alimentation est tellement importante que nous laissons ces agro-industriels mentir à longueur de journée. Nous mettons des produits frelatés et nous ne disons rien, nous nous taisons très curieusement. C'est assez étonnant de voir à quel point nous acceptons les mensonges de la grande industrie.
Et je pense qu'on a à défendre cette biodiversité du monde parce qu'il y a une multitude de cépages et qui font de très très belles choses. Mais en fait, quand on boit un vin qui est du lieu, eh bien en fait, on est dans ce pays et on n'est pas sur le stéréotype des vins que nous voulons nous faire.
Il y a un grand bruit de terroir, c'est le pain, hein. Autrefois, la France faisait les meilleurs pains du monde. Bon, maintenant, on a des blés tellement dégueulasses qu'on peut plus. C'est bien très difficile de manger du bon pain en France. Mais par exemple, le Thiérache, la Beauce, à l'époque, on faisait des pains extrêmement réputés parce que c'est des sols qui avaient juste la profondeur qui permettait au blé de bien faire son cycle, alors que maintenant, ils irriguent en Beauce. Irriguer du blé en Beauce, c'est à peu près comme si à la Romanée-Conti, on irriguait la vigne pour faire 100 hectos et faire du gros picrate 5 étoiles. Vous voyez, c'est à peu près du même niveau. Et les gars, ils ont un terroir fabuleux, ils font un pain qui est tellement dégueulasse que quand vous l'achetez le matin, le soir, il est tout mou, vous pouvez faire un nœud avec, puis le lendemain, il est dur comme du béton. Ce qui est quand même dommage, parce que c'était autrefois des pains qu'on gardait une semaine, tellement ils étaient de qualité. Mais ça demande un respect d'avoir des sols vivants et de ne pas faire n'importe quoi, comme on fait depuis 50 ans. C'est pour ça que la nourriture devient de plus en plus triste. C'est que elle pousse sur des sols morts, quoi. Et une plante sur un sol mort ne fera jamais des plaisirs en bouche. C'est 99% des fraises sont hors sol, 99% des tomates sont hors sol. Manger une bonne tomate, c'est réservé aux gens qui ont la chance d'avoir un jardin privé ou de connaître un gars en bio autour de lui. Avoir une amarque pour manger une vraie. C'est délicieux la tomate comme légume. Héraclite écrivait déjà à l'époque antique la santé de l'homme est le miroir de la santé du sol. Il ne faut pas s'étonner si les gens sont en mauvaise santé. C'est quand oui, l'état des sols, nous on mesure des activités biologiques toute la journée, c'est notre métier. Et on arrive à passer des semaines entières avec l'idée, c'est que des sols morts, que des sols morts, que des sols morts. Pas la moindre activité biologique.
À l'agonie.
Oui, à l'agonie, disons. Elle est plus gentille que moi.
Parce que mort, ça veut dire qu'on ne peut pas ressusciter. Non, parce que mort, c'est fini. Je veux dire, même des sols qui étaient dans un état, je dirais comme la table, nous, on a fait quand on faisait des profils, même à la baramine, on n'arrive pas à rentrer. Ça nous est encore arrivé. Il y Il y a 3 semaines, on n'a jamais pu rentrer à plus de ça dans un sol de vigne. Donc comment voulez-vous qu'une racine, comment voulez-vous que la faune, l'oxygène et tout? Donc en fait, je dis agonie, parce que quand on est à l'agonie, on a encore une petite chance. Ce mort, ça voudrait dire qu'il y a peu d'espoir. Et il y a encore de l'espoir, heureusement. On va essayer le gros manque de nos sols, que ce soit chez les vignerons ou chez les agriculteurs, c'est le manque de carbone, c'est le manque de matière organique. On a l'azote, il y en a en pagaille, les vignerons et les agriculteurs sont complètement obnubilés par les nitrates, donc l'azote. Mais en fait, le gros problème, c'est le manque de la matière organique. Nos sols, la fin de la guerre, avec 4%, et on est à 1,5, et dans certains sols de vigne, on a moins de 1%. Donc on va travailler avec du compost. On va travailler avec des enherbements, ça dépend des régions, mais on va travailler avec des enherbements d'hiver. On va inciter le vigneron à travailler avec des enherbements de type plus graminé pour permettre de, comme le sol va être humide, la plante va quand même réussir avec ses racines à ouvrir ce sol et à nourrir cette faune. Donc on travaille avec ce type de choses. On travaille en été, au printemps, avec un autre type d'enherbement. Alors quand on a des sols qui sont, des vignes qui sont enracinées de façon horizontale et très superficielle, on y va très lentement, on dit aux vignerons, ben voilà, on va travailler une année, un rang sur deux, voire un an, un rang sur trois. En fait, il y a tout un accompagnement comme ça, que ce soit donc au niveau d'un apport de compost. Chez les biodynamistes, on va aussi travailler sur les préparats. On travaille beaucoup, parce que la nature, bon, souvent les hommes pensent que les machines font un travail extraordinaire à l'échelle macroscopique, ce que l'on voit. Or, la faune, les racines, les microbes, on les voit qu'au microscope. Donc en fait, eux, ce qu'ils ont besoin, c'est d'une porosité à leur échelle. Si vous faites un trop gros trou, la racine, elle est dans le vide, elle ne veut pas se nourrir, il faut qu'elle touche le sol. Donc on va travailler avec des composts, avec certains types de plantes, en été, en hiver, voilà. Et chez les agriculteurs, on va travailler sur des techniques beaucoup plus compliquées, qui sont des techniques où on va arrêter de labourer le sol, parce que dès que vous mettez un sol à nu, il est comme vous, quand vous êtes, jamais vous allez vous promener tout nu. Hein. En été, vous mettez un chapeau, vous vous protégez, en hiver, on se couvre, on a des cheveux aussi pour ça. Donc en fait, le sol, les gens sont nubilés par les mauvaises herbes, mais le sol, il n'a qu'un moyen de se protéger, il n'en a pas 36, c'est de faire pousser des plantes. Les gens disent mauvaises herbes, on parle d'adventice. Donc en fait, l'agriculteur, on va essayer de lui faire comprendre qu'il faut qu'il arrête de labourer. On parle de techniques très particulières, de semi-direct ou sous couvert, c'est-à-dire on ne laboure plus. Et pour le laisser couvert, et bien on va utiliser entre la céréale, par exemple le blé, puis s'il veut mettre après une autre plante, on va travailler avec des plantes de couverture. Donc là, c'est un travail beaucoup plus compliqué. Voilà. Le stade de dégradation qui est beaucoup plus grave à l'heure actuelle et qui fait la une de tous nos médias, c'est l'érosion. C'est-à-dire vous retrouvez dans toutes vos rivières de la terre. Donc là, on est au stade pratiquement de la mort des sols. Et ça, c'est très très long à remonter parce qu'il faut remonter la chimie. Donc ça, c'est tout un travail que l'on fait au laboratoire. Vous entendez tous, et c'est un problème avec les Bretons, les algues vertes est liée à la pollution des nappes phréatiques due aux nitrates que mettent les agriculteurs en trop, parce que comme ils n'ont plus de faune, qu'ils n'ont plus de microbes, ils rajoutent de plus en plus de nitrates, et comme il n'y a pas de vie, ben les nitrates redescendent dans la nappe phréatique et vont faire les algues vertes. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est... C'est vraiment un ensemble. Et quand on n'a plus ces éléments, il y a un élément hyper important qui permet de maintenir les sols, c'est le calcium. Eh bien, le calcium va retenir les argiles et la matière organique. Vous n'avez plus de calcium, l'argile et la matière organique ne sont pas retenues. Or, l'argile va remonter, elle reste en suspension. Pour peu qu'elle se mette en mouvement, cette eau va entraîner du sable, des graviers, des cailloux, des blocs, des voitures, des maisons, des ponts et la montagne. Et on a l'érosion qu'on a à l'heure actuelle. Donc tout est lié. Le sol, c'est la base de tout. C'est la base de notre stabilité, c'est la base de l'alimentation, c'est la base de tout. Et on fait comme si ça n'existait pas.